La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire. On ne naît pas femme, on le devient. Écrivait Simone de Beauvoir, pionnière du féminisme. Mais comment devient-on Michel Perrault, pionnière de l'histoire des femmes? Au son de nos archives, la grande historienne sort de sa réserve au moment où les éditions Robert Laffont publient une anthologie de son œuvre. Bonjour Michel Perrault.
Bonjour.
Et merci de partager avec vous, avec nous, votre chemin de femme à l'occasion de la publication de l'anthologie de vos œuvres aux éditions Robert Laffont dans la collection Bouquins. C'est un gros bouquin en trois parties où l'on retrouve l'essentiel de vos travaux sur les ouvriers, sur les prisons et bien sûr sur les femmes. C'est aussi, je dirais, un gros pavé dans la mare des convenances intitulé « Le chemin des femmes », un titre qui indique combien la route est longue, un titre qui dit peut-être aussi que nous ne sommes pas encore arrivés.
Le chemin, c'est en effet sans fin. On peut le continuer et il est riche d'aventures, de bifurcations. J'aime bien cette dynamique du chemin.
Et où mène-t-il ce chemin vers la liberté, l'indépendance, l'autonomie? Quel est votre mot préféré, votre but?
Pour les femmes, liberté, égalité, bien sûr. Mais aussi l'idée peut-être de créer autre chose. Peut-être que les femmes peuvent, par ce chemin, ouvrir d'autres horizons.
Inventer peut-être collectivement,
inventer quelque chose, oui.
Puisque sur votre chemin, Michel Perrault, on croise Flora Tristan, Simone de Beauvoir, Agnès Varda, grande cinéaste qui nous a quittés en 2019. Est-ce que c'est un chemin où on croise des mecs aussi, des hommes?
Ah bien sûr, j'ai rencontré beaucoup d'hommes et il y en a beaucoup dans ce livre. De mon maître Labrousse à la Sorbonne, plus tard Michel Foucault, ô combien, Robert Badinter avec lequel j'ai travaillé et quantité d'autres, je peux pas les énumérer tous. Je cite ceux dont il est question justement pas mal dans ce livre. Il faut bien voir que quand j'ai commencé ma carrière, par exemple à la Sorbonne, quand j'y suis arrivée comme assistante, j'étais la seule femme. Par conséquent, la question ne se posait pas. Et à la vérité, je dois vous dire que je ne me la posais pas. C'est peut-être là que j'avais pas vraiment de conscience féministe à cette époque-là. J'étais dans un monde d'hommes, mais ce monde d'hommes, pour moi, c'était celui dans lequel j'avais envie de m'insérer. Au fond, c'était moins les hommes qui m'attiraient peut-être que le monde des hommes. C'est-à-dire ce monde que je voyais par rapport au monde des femmes. J'avais été élevée dans un collège religieux et dans un monde très de femmes, qui pensaient femmes, culpabilité des femmes, etc. Un peu étroit tout de même, généreux certes, mais étroit. Et pour moi, le monde des hommes, c'était la recherche, la lumière, la liberté du corps, la possibilité d'aller, de venir, de voyager. Autrement dit, c'était un monde enviable. Et par conséquent, pour moi, les hommes, c'était la liberté.
Pour rejoindre ce pays des hommes, ce monde des hommes, j'aimerais que l'on revienne au début du chemin, au pays de votre enfance. Un pays paradisiaque qui s'appelait Moncontour.
Moncontour de Poitou. Vienne, c'est dans le département de la Vienne. Et c'est un village qui fait quoi, 1000 personnes à peu près, vous voyez. Un village rue. Une longue rue pour aller d'un bout à l'autre du village. Bon, et ça a été le village de mes étés d'enfance parce que mon arrière-grand-père était là. Il avait fait sa vie là, il était marchand de bois et sa femme était chanvrière.
Quels sont les sons associés à ce paradis de l'enfance?
Les vaches, j'allais garder les vaches avec ma petite amie Dédé Vergniaud. Et puis, en face de chez mon grand-père, il y avait une porcherie. Alors là, il y avait le bruit des cochons, et d'ailleurs, les gens alentour protestaient beaucoup, parce qu'ils trouvaient que ça sentait mauvais, que ça faisait trop de bruit. Il y avait donc des protestations contre cette porcherie qui était en bout de village.
La petite fille que vous étiez, c'est ce sentiment de liberté, d'aller, de venir, d'être dehors qu'elle aimait.
Oui, c'était un lieu merveilleux, parce que ma grand-mère s'occupait de son père, c'est-à-dire de mon arrière-grand-père. Et elle était quand même très occupée par tout ça, et elle nous laissait une totale liberté, à moi et à mon cousin, quand il était là de temps en temps. Donc, on allait, on venait, on courait, et grand-mère exigeait simplement qu'on soit à l'heure au repas, mais en dehors de ça, on faisait absolument ce qu'on voulait. C'était un monde de liberté totale par rapport à la vie parisienne, où j'étais beaucoup plus encadrée, forcément.
Donc c'était le pied pour une petite fille. Et dans cette liberté totale, il y avait un autre homme. Alors je ne sais pas, pour la petite fille que vous étiez, si elle se le représentait comme un homme. En tout cas, il y avait Jésus. Vous avez reçu une éducation religieuse, Michel Perrault.
Oui, j'étais dans un cours, on disait comme ça, qui s'appelait le cours Bossuet. Le cours Bossuet était rue de Chabrol. La rue de Chabrol est une rue qui n'est pas bien loin du Faubourg Saint-Denis, de la gare de l'Est, dans le 10e à l'heure actuelle. Et mes parents habitaient rue Grenetta, tout près de la rue Saint-Denis, justement. Et ils m'avaient mis là pourquoi ? Parce que mes parents étaient libres penseurs, ne pratiquaient aucune religion, et ma grand-mère, qui elle était très pieuse, pensait qu'il ne pourrait pas me faire faire ma première communion. Or, elle considérait que c'était tout à fait important de faire sa première communion. Au départ, c'était simplement pour la communion, donc jusqu'à la 6e, mais il y a eu la guerre. Et du coup, tout était tellement compliqué que j'ai continué toutes mes études secondaires. De la 11e au bac, j'ai été au cours Bossuet, ce cours des religieuses.
Une éducation religieuse et joyeuse. C'est ce que vous écrivez lorsque vous faites un peu cet exercice qu'on appelle de l'ego. Histoire, vous dites religion, source de plaisir, d'émotion, de fête, l'accès au merveilleux. Pourquoi ?
Alors, je vais nuancer cette réponse. Oui, la religion, c'était la sociabilité, c'était en effet les fêtes. La chapelle était un lieu chaleureux, qui sentait bon, absolument. Donc oui, il y avait beaucoup de plaisir autour de la religion. Mais là où je nuancerais, c'est que il s'est trouvé que ça a été la fin de mon enfance et mon adolescence. Et que le cours Bossuet, à partir du moment où il y a eu la guerre, a changé. C'était Vichy. Les religieuses auparavant, on les appelait les sécularisées parce qu'elles ne portaient pas de costume religieux. Elles avaient un costume laïque, très sobre évidemment. Et tout d'un coup, en 40, elles avaient repris le costume religieux.
Donc ce n'est plus la République française, c'est l'État français, voilà, du maréchal Pétain.
Exactement. Et c'est plus tard que j'ai évidemment analysé ça. À ce moment-là, ça nous a paru totalement surprenant. Totalement surprenant. Les religieuses étaient très contente, elle, évidemment. Sauf une ou deux qui, je pense, par protestation contre Vichy, ont refusé de prendre le costume religieux, sont restées en sécularisé. Hein. C'est tout à fait intéressant comme acte de résistance. Et à ce moment-là, le cours Bossuet est entré dans une espèce de mystique de la repentance. Nous étions, nous, les Français, et nous, les femmes, filles, particulièrement coupables de ce qui venait de se passer. La France a perdu la guerre parce que les Français ont oublié Dieu et aussi parce qu'ils ont oublié leur devoir vis-à-vis de la nation, notamment les familles n'ayant pas beaucoup d'enfants. Je me souviens d'une phrase que j'avais entendue dans un prêche dans une église pendant l'Exode, où le prêtre disait « on a voulu épargner les femmes ». Ce que je ne comprenais pas du tout à l'époque, du tout. J'avais 10 ans, alors je ne comprenais rien. Disons que entre les deux guerres, en effet, la France est un pays de faible natalité. Pour ma part, je suis fille unique et j'étais pas du tout unique comme fille unique. Dans ma classe, au cours Bossuet, nous étions majorité de filles uniques. On reflétait bien cette société où, en effet, les gens ne tenaient pas tellement à avoir des enfants. Mais ça, c'était vécu comme une... On nous enseignait ça un peu comme une culpabilité. Et notre identité de femme, au fond, on nous disait « faut pas faire comme ça ». Il faut que plus tard, vous soyez des bonnes épouses, des bonnes mères, et que vous ayez des enfants. On ne le disait pas vraiment. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on ne parlait pas beaucoup de sexualité. Je dirais même qu'on n'en parlait pas du tout. Mais on nous suggérait des choses. Autrement dit, le cours Bossuet a été pour moi à la fois un lieu de plaisir et d'amitié avec les filles qui étaient là. Et en même temps, ça a été aussi un lieu d'angoisse et d'inquiétude.
Vous êtes sans doute une lectrice à l'époque de la Bible et non pas de Karl Marx. Et pourtant, vous avez le sentiment d'appartenir au camp des injustes, une expression de François Mauriac.
Il ne faut pas croire que parce que j'occupe une place importante dans la hiérarchie sociale, que parce que j'écris dans un grand journal, il faut bien le dire, bourgeois, comme on dit aujourd'hui, que je demeure étranger à ces inquiétudes. Au contraire, plus que jamais, je sens ma responsabilité. Je veux dire, je ne crois pas, et je crois de moins en moins, qu'on ait le droit de se dire officiellement catholique et de se résigner à l'injustice établie. Il s'agit de refuser un ordre injuste et cependant de ne pas susciter un désordre qui serait pire que cet ordre injuste. Nous sommes pris dans ce dilemme. Je crois cependant que lorsque l'injustice surabonde, il ne s'agit plus de penser à l'ordre, mais il faut penser à la justice.
La voix de François Mauriac, prix Nobel de littérature, écrivain, mais aussi journaliste, catholique et très engagé, au-delà, voire contre son propre milieu social. Qu'est-ce que vous ressentez à l'écoute de Mauriac, Michel Perrault ?
Je l'ai toujours beaucoup aimé. Hein. C'était, un, comme vous venez de le dire, un romancier catholique et donc... Au cours Bossuet, on nous le faisait lire. C'était, on nous le faisait lire, ou tout au moins tous les livres de Mauriac étaient à notre portée. D'ailleurs, j'en ai été surprise plus tard, parce que il y a chez Mauriac un sens du péché et une sensualité extrême. Extrême. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur le plan de la sexualité en lisant Mauriac. Il y avait tout ça chez Mauriac.
Et puis on vient de l'entendre, ce grand sens de la justice, voilà. J'allais dire au-delà de sa propre classe.
Bien sûr. C'est Mauriac qui a employé cette expression « je suis né dans le camp des injustes ».
Et ça, ça résonne chez vous ?
Ah, beaucoup. Énormément.
Mauriac serait la petite voix de votre conscience ?
Oui, une, peut-être pas la voix, mais une des voix de ma conscience, sûrement, oui, oui. L'idée que j'étais privilégiée et que j'étais dans un milieu privilégié et que le monde n'était en effet pas comme ça, comme il le dit très bien, oui, c'est quelque chose que j'ai ressenti très très tôt, très tôt. Je pourrais dire que j'étais toute petite quand même, mais à l'époque du Front Populaire, je me souviens, par exemple, d'un dîner où mes parents et mes oncles et tantes étaient autour de la table et s'affrontaient, en parole naturellement, sur le Front Populaire. Ma tante trouvait scandaleux que les ouvriers envahissent les plages. Hein. Et mes parents, qui n'étaient pas des foudres de guerre et pas des révolutionnaires, mais avaient ce sens de la justice, et mon père a dit « mais enfin, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, pourquoi est-ce qu'ils ne diraient pas en vacances ?» Hein. Et je me souviens que la discussion s'est envenimée et mon oncle et ma tante sont partis en colère. Autrement dit, c'était un petit peu comme l'affaire Dreyfus, on en a parlé. Hein. On a parlé des congés payés et les familles se brouillent complètement. Ça m'est resté beaucoup, ça. Et par ailleurs, j'étais très heureuse que mon père, lui, ait pris la position de défendre les congés payés. Autrement dit, j'avais ce sens-là. Il faut dire que mon père était négociant en cuir et sa clientèle, c'était les cordonniers. Il y avait notamment des réfugiés espagnols de la guerre d'Espagne qui étaient devenus cordonniers parce que le métier de cordonnier, paraît-il, s'apprend relativement facilement. Mais il y en avait qui avaient lu Karl Marx. Et il y en a un qui a dit à mon père, il faudrait que Marcel, vous qui êtes intelligent, vous devriez lire ça. Et il lui avait prêté un espèce de petit abrégé de Karl Marx, qui est extrêmement drôle de penser à mon père, qui était un homme très cultivé, qui avait fait son bachot, etc., etc., mais qui n'avait pas lu Karl Marx.
Et vous, vous lui avez piqué Karl Marx ?
Non. Mais j'ai identifié cela, et je me souviens très bien que mon père me disait, mais dans le fond, Karl Marx, il a raison quand il dit, il parle de la plus-value, hein, les capitalistes embauchent le prix du travail et ils paient les ouvriers après. Ça, c'est quelque chose que mon père m'a expliqué. Et ça l'avait beaucoup frappé. Il n'y avait pas réfléchi avant. Et c'est un cordonnier qui lui avait prêté ce petit livre.
Place de la Bastille, des associations appartenant au Rassemblement populaire se réunissent, tandis que deux immenses cortèges sont formés, l'un rue de Rivoli, l'autre boulevard Beaumarchais. Par des itinéraires différents, ils se dirigent vers la place de la Nation. Cette manifestation populaire, dont aucun incident n'a troublé le calme, se termine par le serment renouvelé du Rassemblement populaire pour le pain, la paix, la liberté.
Vous êtes rue Saint-Denis, une fabrique est occupée, sans doute un atelier de confection, il y a des drapeaux, des jeunes femmes qui chantent et qui dansent au son de l'accordéon. Michel Perrault.
Ah oui. En effet, c'était quelque chose de formidable parce que le Front populaire, il y avait Paris. Paris a été pendant un mois envahie tous les jours, tout le temps, de cortèges. Et comme nous habitions à côté du boulevard de Strasbourg, du boulevard Sébastopol, la grande croisée qui va de la gare de l'Est jusqu'à Saint-Michel et jusqu'à la porte d'Orléans, il y avait tout le temps des cortèges. Et les gens chantaient. Et il y avait ces petites fabriques, on est tout près du sentier, où il y avait des main-d'œuvre féminines qui occupaient les ateliers et qui ne faisaient rien à ce moment-là. Hein. On entendait l'accordéon, les chansons, elles mettaient des banderoles aux fenêtres. Moi, je passais là, en revenant du cours Bossuet, je voyais ça. Je trouvais ça extrêmement drôle. Et quand, de temps en temps, mes parents, qui étaient quand même inquiets, malgré tout, on est de la bourgeoisie, hein, je comprenais pas très bien pourquoi eux étaient inquiets alors que tout était si gai autour.
C'est quoi votre désir? Comment vous l'analysez aujourd'hui, ce désir à tout prix de vouloir être avec les autres, ceux qui ne sont pas de votre classe? Est-ce que c'est de là qui est né votre goût pour l'histoire et notamment pour l'histoire des ouvriers, puisque c'est d'abord l'histoire des ouvriers que vous allez faire, Michel Perrault?
Mais le goût des autres, le cours Bossuet a joué un rôle, parce que le cours Bossuet avait bien des défauts que j'ai vus plus tard, mais le sens des autres existait. Il y avait, en 1943, il y a eu un livre que j'ai lu plus tard, de l'abbé Godin, je me souviens, qui s'appelait « France, pays de mission ». Et ça voulait dire que c'était pas la peine d'aller en Afrique pour convertir les petits Africains, il fallait rester en France, et il fallait s'occuper des ouvriers, parce que les ouvriers n'avaient pas la foi, et que par conséquent, ils seraient peut-être voués au malheur éternel. Donc il fallait quand même faire quelque chose. C'est une façon, là aussi un peu puérile, de s'intéresser aux ouvriers, mais elle a fonctionné pour moi.
Michel Perrault, lorsque vous êtes en terminale, vous êtes une jeune chrétienne qui avait envie justement d'aller à la rencontre de cette classe ouvrière. Est-ce que c'est justement le mouvement de la jeunesse ouvrière chrétienne qui vous a permis d'entrer enfin en contact avec la classe ouvrière?
D'une certaine manière, oui.
Et comment?
Il y avait les jeunesses chrétiennes, il y avait la JOC, il y avait la JEC. Et il y avait des grandes élèves qui ont fondé la JEC au cours Bossuet. Ce que le cours Bossuet n'aimait pas du tout, d'ailleurs. Hein, parce qu'ils aimaient bien leur monde et la JEC, c'était un peu suspect. J'ai adhéré à la JEC et du coup, dans ma paroisse, j'ai cherché à rencontrer d'autres. Et j'ai rencontré la JOC, c'est-à-dire la jeunesse ouvrière chrétienne. Il y avait sur la paroisse de Montmorency des jeunes ouvriers qui se réunissaient réunissaient entre eux. On avait des réunions communes, JEC, JOC, justement pour que les classes sociales soient ensemble. Et j'ai rencontré à ce moment-là un jeune homme qui s'appelait Pierre, je me souviens, et qui était un type formidable et qui n'avait aucune espèce de haine sociale. Alors là, pas du tout. Mais il me disait, toi, Michel, tu es une bourgeoise, quoi. Mais tu vas avoir probablement une situation, tu vas faire des études. N'oublie pas la classe ouvrière. Hein. Notre combat, ça doit être le tien aussi.
Nous, communistes, qui luttons sous les plis du drapeau rouge, nous sommes heureux de voir à nos côtés des combattants de la liberté qui arborent le drapeau tricolore, dont nos ancêtres firent l'emblème de la grande révolution française et qu'on vit souvent voisiner sur les barricades avec notre drapeau rouge.
L'après-guerre, c'est la fête, Michel Perrault. C'est l'entrée comme étudiante libre à la Sorbonne en 1946. C'est le marxisme triomphant, c'est le triomphe de la classe ouvrière, c'est le triomphe du parti communiste. Et c'est là vraiment, dans ces années d'études en Sorbonne, que vous allez le rencontrer, ce mouvement communiste.
Oui, j'étais catholique, donc... j'ai adhéré à ce qu'on appelait le centre Richelieu. Enfin, c'était un centre pour les étudiants catholiques. C'était eux qui étaient les plus dynamiques, les catholiques et les communistes. Et les étudiants communistes, en histoire, étaient nombreux. Je les trouvais formidables. Je les trouvais d'abord beaux. Ils avaient tous un petit peu une allure à la Gérard Philippe, vous savez, c'était Gérard Philippe, c'était le héros de cette génération, mais il y avait quelques filles, et il y avait notamment une fille qui m'a beaucoup influencée, qui sera plus tard Annie Kriegel, une militante importante du Parti communiste, avant de le quitter d'ailleurs, et d'aller vers plutôt la droite assez conservatrice. Ça montre que les gens ont une histoire, hein, tout ça.
Et c'est Annie Becker à l'époque.
Annie Becker, absolument. Et là, on discutait beaucoup, évidemment, des problèmes sociaux, et de la guerre d'Indochine, qui mobilisait beaucoup les étudiants communistes, et moi aussi. J'allais aux réunions, etc. Donc oui, ça a été quelque chose d'important. Et les garçons communistes que j'ai connus à cette époque-là, je ne les ai jamais perdus de vue. Ça a été parmi mes meilleurs amis plus tard.
À la Sorbonne, c'est le cours d'Ernest Labrousse qui vous fascine, Michel Perrault. Vous l'avez déjà cité comme les hommes un peu fondateurs de votre pensée, de vos travaux d'historienne à l'époque à venir. Vous êtes pleine d'admiration pour ce professeur et pourtant, il vous dissuade de travailler sur le féminisme. Ça vous met pas en colère, ça ?
Non, ça ne me met pas en colère parce que je pense que quand je lui avais proposé au moment du choix d'un mémoire de dernière année, je lui ai dit j'aimerais bien travailler sur le féminisme. Il avait ri et il m'avait dit oh, écoutez non, c'est un sujet trop actuel. Car Simone de Beauvoir avait publié en 1949, et nous étions peu après ce temps-là, Le deuxième sexe. Mais je pense que je faisais un peu de provoque. Par ailleurs, il faut dire que Labrousse était un apôtre de l'histoire sociale. Et que c'était important. Mais comme par ailleurs, moi aussi je le pensais, hein, dans le fond, je lui ai lancé comme ça le féminisme, mais en vérité, j'étais plus attiré par le social. Donc j'ai pas eu de colère, j'ai trouvé que c'était normal, et d'une certaine manière, peut-être que je lui ai été reconnaissante de me proposer un sujet d'histoire sociale.
N'empêche que Le deuxième sexe, le livre fondateur de la pensée féministe, vous l'avez lu, Michel Perrault, et il vous a profondément marqué.
J'ajouterais d'ailleurs que même si je l'avais fait dans une intention de revendication, après tout, il aurait pu être également quelque chose d'impartial et d'objectif.
Oui.
En fait, il ne l'était pas. Mais il y a certainement dans ce livre une certaine passion, parce que le fait est que je trouve que la situation des femmes telle qu'elle est aujourd'hui est déplorable à la fois pour les femmes et à la fois pour les hommes, qui d'ailleurs les uns et les autres s'en plaignent, et que bien entendu, ça n'a rien pour moi d'un exposé simplement abstrait. Il s'agissait donc non pas de découvrir des horizons absolument inconnus et extraordinaires, mais simplement de faire une espèce de mise au point, d'essayer de systématiser un peu tout ce fatras d'opinions qui sont répandues sur les femmes, et d'essayer de dégager à travers tout cela ce qui, à mes yeux, est la vérité. Il s'agissait aussi de prendre un point de vue existentialiste, de prendre une perspective singulière sur un ensemble de faits, en effet, que je n'ai pas du tout cherché à trouver parmi les plus étranges et les plus étonnants. Au contraire, que je voudrais aussi familier et aussi par conséquent convaincant que possible, par la généralité même. Je n'ai pas du tout essayé de faire quelque chose de nouveau ou d'extraordinaire ou d'étonnant, oui, c'est bien plutôt quelque chose de vrai.
J'ai essayé de faire quelque chose de vrai, dit Simone de Beauvoir, et c'est son grand argument face aux critiques de l'époque. Vous vous souvenez des polémiques de l'époque, vous vous souvenez de la façon dont elle s'est fait quasiment, on dirait aujourd'hui, lynchée.
Je pense que je les ai surtout revues après. À ce moment-là, j'étais très très occupée par ailleurs, j'ai pas dû voir vraiment les polémiques de l'époque, tout en sachant que Simone de Beauvoir était considérée comme une espèce de diable féminin. Oui, ça, je le savais très très bien. Et ça m'attirait beaucoup, naturellement, beaucoup. Mais tout ce qu'elle vient de dire là est tout à fait intéressant, parce que on voit quelle a été sa démarche dans le deuxième sexe. Et quand je l'ai lu, dans un premier temps, j'ai trouvé ça difficile, voire un peu ennuyeux, même de temps en temps, hein, avec des pages assez longues, etc. Mais je l'ai repris quelques années plus tard, et là, j'ai vu l'importance. Et notamment, j'ai vu l'importance de tout ce qu'elle dit sur les rapports, sur la condition des femmes, hein, ce que c'est que la maternité, ce que c'est que la ménagère. Elle a des pages extraordinaires sur la ménagère. Elle analyse l'aliénation des femmes de manière absolument remarquable, avec effectivement beaucoup d'exemples concrets, historiques, et en osant parler de sexualité. Cette sexualité dont on parlait si peu, dont on parlait jamais, évidemment, au cours Bossuet, elle en parle. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles elle a fait scandale. Et Mauriac, que j'aime tant par ailleurs, a eu des mots très durs sur Simone de Beauvoir. Je ne vais pas continuer à m'intéresser au vagin de votre patronne, a écrit ou dit François Mauriac. Et là, je me suis dissocié absolument de François Mauriac. Et l'on voit combien, là, les problèmes sont difficiles. Hein, et que des gens progressistes socialement, comme François Mauriac, peuvent être absolument fermés sur le plan de la différence des sexes. Simone de Beauvoir ouvrait des horizons nouveaux en disant « on ne naît pas femme, on le devient », en ajoutant quelques années plus tard « on ne naît pas homme, on le devient », elle ouvrait un champ de réflexion, de déconstruction, comme on dira après, de la différence des sexes. Elle est la mère du genre, sans le savoir et sans le dire.
Simone de Beauvoir qui veut parler du vrai, Simone de Beauvoir qui parle aussi de sa propre expérience et de sa vie de couple avec Sartre. Pourquoi ce couple Beauvoir-Sartre à l'époque vous fascine autant, Michel Perrault ?
Par son extraordinaire égalité. Ou tout au moins une égalité. En réalité, elle n'était pas si égale que ça, cette égalité.
Parce qu'il y a une polygamie imposée par Sartre, en quelque sorte.
Oui, mais tout de même, Sartre et Simone de Beauvoir, cette fameuse photo, on les voit travaillant ensemble, à deux petits bureaux contigus, côte à côte, chacun à leur œuvre, avec, de la part de Sartre, beaucoup d'admiration pour Simone de Beauvoir et évidemment une suradmiration de Simone pour Jean-Paul. Et il est certain que là, elle considérait que c'était lui, hein, le philosophe et l'intellectuel, et qu'elle, à la limite, elle n'était pas. De ce point de vue-là, c'est très intéressant parce que elle reconduit tout de même des hiérarchies, malgré tout. Mais c'était un couple très libre. Il y avait les fameuses amours nécessaires et amours contingentes. L'amour nécessaire, c'était l'amour qu'elle avait pour lui, mais à partir d'un certain moment, sans sexualité. Ils avaient rompu sur ce point, ils considéraient qu'après tout, ça ne les intéressait plus d'avoir ce type de rapport, alors que Sartre aimait beaucoup les femmes et qu'elle, elle a eu aussi pas mal de liaisons avec des hommes. Mais c'était distinct. Et ça, c'est quand même quelque chose de révolutionnaire à l'époque, absolument révolutionnaire. Tellement révolutionnaire qu'il scandalise beaucoup. Hein. Mais moi, j'avais beaucoup d'admiration pour ça.
En tant que jeune femme, Michel Perrault, et bientôt jeune professeur à Caen, cette notion du couple, et vous en formez un de couple avec votre mari Jean-Claude, et cette notion aussi d'amitié vous est très chère, puisque vous êtes entourée de couples progressistes et vous avez aussi de nouvelles amitiés à Caen avec d'autres jeunes profs, je pense à Nicole Le Douarn ou encore à Mona Ozouf.
Le plus dur, ça a été le départ de Michel et de Nicole.
parce qu'elles ont obtenu leur changement plus vite que nous. C'était plus facile. Les postes de professeurs de philosophie étaient rares, forcément, ils le sont dans les lycées. Et donc, Jacques et moi avons peiné à obtenir notre changement pour Paris, qui est quand même pour nous l'horizon. Quand j'ai écrit Composition française, j'ai dû écrire que nous étions tellement tournés vers l'avenir que le passé de chacun importait très peu. Nous ne demandions pas de passeport, ce qui est à la fois très beau, ce qui est en même temps très faux, parce qu'il est là, le passeport, mais à ce moment-là, on l'ignore. Mais au fond, nous savions très peu de choses les uns des autres. Le milieu social était relativement perceptible, mais ce dont nous venions vraiment, ce que nous avions déjà traversé, ça ne comptait pas. C'était une idéologie de la table rase, mais spontanée, spontanément vécue. Et je crois que c'est ensuite que nous nous sommes rendus compte que chacun arrivait avec déjà son lot, enfin la part non choisie de l'existence comptait probablement beaucoup plus que la part choisie.
Extrait d'Amis pour la vie, un documentaire de Perrine Kervran sur France Culture. Je vous laisse réagir au propos de Mouna Ouzouf.
Oh bah elle dit absolument le vrai, elle, absolument.
Faire voilà. Table rase du passé,
oui,
déjà.
Oui, on voulait faire table rase du passé. On n'avait pas du tout, on avait envie de quitter tout ça. Le patrimoine, la nostalgie, c'était pas du tout des sentiments de cette époque-là. Il faut dire que c'était l'après-guerre, qu'on parlait reconstruction, progrès, on était tourné vers l'avenir, vers le travail, vers nos jeunes carrières aussi qui commençaient, et donc on ne se posait pas de questions sur nos passés respectifs. Et c'est vrai que pratiquement jusqu'à Composition française, j'ai ignoré le passé enfantin de Mouna Ouzouf. Je ne le connaissais pas, absolument. Et il y a une autre amie qui était là, mais on n'a pas entendu sa voix, Nicole Ledouarin, grande biologiste extraordinairement brillante, qui est nobelisable encore, bien sûr, en biologie. Et elle non plus, je n'ai appris que récemment son histoire. On n'en parlait pas. On était dans le présent, totalement dans le présent.
Vous regardiez droit devant et vous étiez oui. À un moment de l'histoire de la France où l'Empire oui. redevenait un hexagone. Et ça, cette décolonisation, ça a été un sujet aussi qui vous a agité dans vos cercles d'amis. Avec votre Jean-Claude Demarie, vous étiez les chrétiens de gauche de service. Oui. Mais est-ce qu'à ce moment-là, c'est Dieu qui vous a quitté ou c'est vous qui avez quitté Dieu pour le Parti communiste ?
Que dirais-je à ce sujet ? Si Dieu existe, il m'a peut-être quitté aussi. Je pense que toute notre évolution nous portait progressivement à quitter la foi catholique. Surtout parce que, à cette époque, la hiérarchie catholique était plutôt conservatrice. Et notamment, ce qui nous a fait quitter, au fond, c'est l'histoire des prêtres ouvriers. Les prêtres ouvriers s'étaient engagés dans les usines, ils voulaient travailler en usine pour connaître mieux le monde ouvrier.
C'est une expérience incroyable.
Expérience incroyable, et cette expérience a été très mal vue par la hiérarchie, parce qu'on disait, ils vont devenir communistes, et d'ailleurs ils le devenaient. Ils entraient, tout en restant d'ailleurs croyants, souvent, la plupart du temps, mais ils militaient au Parti communiste, etc. Donc, les prêtres ouvriers ont été interdits. Et ils se sont reconvertis dans les paroisses. Ils sont devenus curés de paroisse. Et nous, Jean-Claude et moi, nous avons eu l'occasion d'ailleurs de travailler avec des prêtres de Colombelles, Mondeville, etc., qui étaient d'anciens prêtres ouvriers. Donc, on est allé vers le Parti communiste. Et comme il y avait la guerre d'Algérie, nous pensions que le Parti communiste serait militant contre la guerre d'Algérie. Ça nous paraissait évident.
Est-ce que
il a été ?
Oui, mais est-ce qu'il l'a vraiment été ? Est-ce qu'il l'a été jusqu'au bout, finalement, au regard de l'histoire ?
Non. Enfin, il a évidemment condamné la guerre. Ça, alors, le Parti communiste a toujours condamné la guerre. Mais il n'a pas mis ses forces pour le nationalisme algérien. Et puis, en plus de ça, la classe ouvrière française n'était pas, à l'époque, prête à se battre pour l'indépendance de l'Algérie. Donc, le Parti communiste condamne la guerre d'Algérie, mais ne fait rien, pas grand-chose. Et ceux qui font des choses, c'est plutôt les chrétiens de gauche. Ce sont les chrétiens progressistes qui ont été les plus actifs à lutter contre la guerre d'Algérie et notamment à s'engager comme porteurs de valises, ce que j'ai fait moi quelque temps aussi. Et voilà. Et quelqu'un comme Vidal Naquet, lui, il n'est pas chrétien, hein, Vidal Naquet, mais il n'est pas communiste non plus. Et c'est ces gens-là qui ont véritablement lutté contre la guerre d'Algérie.
En tout cas, la chrétienne de gauche que vous étiez fait ses classes en quelque sorte auprès du parti communiste dans ce contexte hein, de la décolonisation et de la guerre d'Algérie. Et puis la fin des années 60 est évidemment marquée par votre grande rencontre, puisque vous le vivez en direct live, comme on le dirait. C'est 68, c'est évidemment les mouvements étudiants, mais aussi la grève générale à Renault-Billancourt.
Nous vous demandons de vous prononcer massivement pour la poursuite de la lutte en toute liberté. Baissez les mains, camarades. La grève se poursuit à l'unanimité.
Devant ce refus massif des travailleurs de reprendre le travail, devant leur exigence de voir satisfaites leurs revendications, et en même temps, devant l'idée grandissante que si le gouvernement ne veut pas nous donner satisfaction, il est nécessaire d'en changer. De Gaulle, au lieu d'écouter démocratiquement la voix du pays et les exigences de la nation, nous répond par les menaces et le chantage. Nous entamons notre 15e jour de grève parce que nous voulons la satisfaction de nos revendications. Et si De Gaulle veut le retour à la situation normale, il lui suffit tout simplement de répondre à nos exigences.
Vivre l'événement et écrire l'événement, ce qu'on appellerait l'histoire du temps présent, en quelque sorte, Michel Perrault, c'est aussi votre expérience d'historienne en 68.
Discrètement, tout de même. J'ai vécu 68 intensément. J'étais à ce moment-là assistante à la Sorbonne, très bien placée au cœur des événements, mais je n'avais plus l'âge des étudiants. Donc, j'ai jamais eu conscience de faire 68. C'était les étudiants qui le faisaient. Mais quand ça a été terminé, avec Jean Métron, qui était un homme remarquable, qui a beaucoup travaillé sur le mouvement ouvrier, le fameux dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, c'est lui, et Madeleine Rebériot, qui était une femme très engagée également, nous avons décidé de ramasser tous les tracts, hein, les affiches, etc., de la Sorbonne et de faire un numéro spécial de la revue dont nous nous occupions, qui s'appelait le Mouvement Social, de faire un numéro spécial du Mouvement Social qui s'est appelé la Sorbonne par elle-même. Et c'est un gros numéro, un numéro double, comme on disait, et nous avons été évidemment passionnés par ce travail. En effet, c'était faire de l'histoire immédiate, hein, transformer ces tracts, ces affiches en matériaux d'histoire que nous livrions en quelque sorte à nos collègues en disant, ben voilà, ça c'est de l'histoire. Ça d'ailleurs fait problème, il y a des gens qui n'étaient pas du tout d'accord, qui considéraient que 68 c'était pas sérieux, que tous ces tracts, tout ça, c'était de la littérature secondaire, et que véritablement, en lui donnant la dignité d'un numéro spécial de la revue Le Mouvement Social, on leur faisait beaucoup d'honneur. Là, évidemment, nous avions pris position.
Mais regarde ma petite ligne de chance. Mais regarde ma petite ligne de chance. Regarde ce tout petit destin, si petit au creux de ma main. Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses?
Ce que j'en pense, quelle importance. Tais-toi et donne-moi ta main. Ta ligne de hanche. C'est un oiseau dans le matin.
Michel Perrault, c'est vraiment de 68 qu'est né ce mouvement de libération des femmes. Et en fait, en 68, les femmes étaient un peu reléguées au second rang. Et il a fallu que dans un deuxième temps, elles se mobilisent pour elles-mêmes, pour leur corps. Et c'est à ce moment-là, vous aussi, que vous renouez avec cette histoire des femmes.
Vous avez entièrement raison. En 68, les femmes, les filles, les étudiantes, très nombreuses, hein, sont là partout, dans les manifs, dans les réunions, mais jamais au premier plan. Hein. Les leaders de 68 sont tous des garçons. Et on ne parle pas des problèmes de femmes. Il y a eu des choses sur la sexualité. Je me souviens d'une réunion à la Sorbonne sur la sexualité, il y a eu beaucoup de succès d'ailleurs, et qui était promue, organisée par des féministes, comme Anne Zelinsky par exemple. Mais c'est véritablement en 70 que, quand les filles ont vu qu'elles étaient là mais qu'on parlait pas d'elles, alors elles ont dit, bah, et nous ? Et du coup, elles se sont emparées de leurs problèmes. Il y avait le mouvement de libération des femmes, le Women's Lib américain, avec des devises comme « Our bodies, ourselves », notre corps nous-mêmes. Et les Françaises se sont emparées à ce moment-là de leur mouvement. Et ça a été des années d'une intensité extraordinaire. Les années 70, 71, 72, 74, la loi Veil. Mais la loi Veil est accompagnée, vive Madame Veil, je la salue absolument. Mais ça s'est accompagné d'un mouvement des femmes, de manifestations, de procès. Faut pas oublier les procès. Le fameux procès de Bobigny, où Gisèle Halimi était l'avocate d'une jeune femme qui s'était fait avorter et dont l'avorteuse, enfin, était passible des tribunaux. Ce procès a mobilisé la France entière et il y a eu, au moment du procès de Bobigny, des gens très importants qui sont venus témoigner pour dire leur solidarité avec celle qui s'était fait avorter. Et c'est évidemment, ça explique aussi la loi Veil de 1974-75, plus exactement.
Curieusement, Michel Perrault, vous écrivez qu'au fond, cette histoire des femmes, elle se tricote aussi avec l'histoire des prisons et que ce sont des histoires quasiment enchevêtrées et pensées aussi d'ailleurs par un homme qui vous a beaucoup marqué, Michel Foucault. Je vous propose qu'on écoute Michel Foucault et que vous puissiez ensuite justement nous dire quel lien vous faites en tant qu'historienne entre la difficulté d'écrire l'histoire des femmes et la difficulté d'écrire aussi l'histoire des prisons.
Nous avons eu raison, nous avons eu terriblement raison, et malheureusement raison. Voilà maintenant 10 ans que je dis que la prison qui devrait amender les délinquants, qui devrait permettre leur réinsertion, ne fait que les détruire et les rendre plus dangereux à la sortie qu'ils n'étaient à l'entrée.
La voix de Michel Foucault dans La Marche du Monde, c'est extrêmement frappant de voir dans ces années 70-80 à quel point les intellectuels sont présents dans les débats de société.
Oui, ça c'est un effet de 68. 68 a aboli certaines forteresses, certains barrages, on n'était plus tellement, les syndicalismes c'était un problème, le Parti communiste évidemment, mais il y avait toutes sortes de mouvements fluides, de groupes, et c'était favorable au rapprochement entre les gens. Et puis il y a eu les révoltes dans les prisons, et Michel Foucault a eu avec ses amis le grand mérite d'être solidaire non pas avec de la philanthropie, mais en disant il faut donner la parole aux prisonniers. Le fameux groupe d'information prison, c'était l'action consistait à aller dans les maisons d'arrêt et à distribuer des questionnaires aux familles qui attendaient d'aller voir leurs détenus, en leur disant est-ce que vous pourriez leur demander de répondre à ce questionnaire, etc. etc. C'était vraiment une tentative pour donner la parole aux détenus, et ça a fait évoluer les prisons, parce que le pouvoir, heureusement, même quand on n'est pas d'accord, on est dans une république et la république elle incorpore. Il y a eu des lois favorables par exemple à la presse, on a autorisé les journaux à pénétrer dans les prisons et il y a eu toutes sortes de choses comme ça. C'est comme ça que les choses évoluent aussi.
Et cet enchevêtrement, vous utilisez ce terme Michel Perrault, cet enchevêtrement entre l'histoire des femmes et l'histoire des prisons, quel lien faites-vous ?
Moi je me trouve un petit peu personnellement dans les deux réseaux. Parce que je fais l'histoire des prisons, je contribue beaucoup enfin, à la développer en proposant des sujets aux étudiants, des thèses, il y en a eu beaucoup, beaucoup. C'est vraiment un terrain qui s'est beaucoup développé, avec aussi, après Foucault, un travail avec Robert Badinter, un peu plus tard, dans les années 80.
À qui l'on doit l'abolition de la peine de mort en France.
Bien sûr, en 81. Et au même moment, il y a le mouvement des femmes et la volonté d'écrire l'histoire des femmes à partir des années 73, 74, 75. Et à ce moment-là, il y a presque un peu une concurrence entre les deux. Et comment arriver à être dans les deux choses, hein ? Ça demande évidemment beaucoup de travail et c'était pas toujours forcément les mêmes personnes. Par exemple, à Jussieu, où j'étais devenu professeur, les garçons venaient dans mon séminaire sur les prisons et demandaient des sujets sur les prisons, la délinquance, le crime. Les filles venaient à mon séminaire sur les femmes et demandaient à avoir des sujets sur les femmes, etc. Curieusement, il n'y avait pas tant de fusion que ça. Il y avait une continuation un petit peu de la différence des sexes aussi.
Moi, je me balance parmi tous vos désirs, vos médisances. Moi, je m'en balance. Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Car je m'en balance, je me balance, je m'en balance, je me balance.
Nous arrivons au terme de votre chemin de femme, Michel Perrault. Deux, trois petites questions de conclusion, si vous le voulez bien. Je pense aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent et qui, pour certains, pensent l'émancipation comme un concept occidental. Vous répondez quoi ?
Que c'est universel. Que l'égalité n'est pas un concept occidental. C'est, peut-être ça a été pensé en Occident pour des raisons historiques contingentes, finalement. Mais c'est pour tous. Et il ne peut pas y avoir une société libre et heureuse s'il y a une subordination des femmes aux hommes, si les femmes sont opprimées par les hommes.
Françoise Héritier dit, dans sa hiérarchie des sexes, ce n'est pas parce qu'on naît avec un pénis que l'on doit pour autant dominer.
Oui, Françoise Héritier a été la grande théoricienne de la hiérarchie des sexes dans ses livres magnifiques qui s'appellent Masculin-Féminin, la pensée de la différence, Masculin-Féminin, dissoudre la hiérarchie. Et elle montre comment cette pensée hiérarchique de la valence différentielle des sexes, avec toujours l'idée homme plus, femme moins, c'est quelque chose d'universel et peut-être d'éternel, en tout cas aussi loin que l'on regarde, on le voit. Mais ça peut changer, d'où l'idée de dissoudre la hiérarchie des sexes, ça me paraît très important.
Vous avez également écrit que vous regrettez de n'avoir jamais osé être grossière ou violente. Alors maintenant, vous pouvez le faire, non ?
Oui, mais je suis trop bien élevée.
Mais ce serait quoi votre coup de gueule ? Ou alors ce serait par la voix de qui votre coup de gueule ?
Spontanément, comme ça, je pense à la jeune Thunberg.
Oui, Greta.
Greta. Greta Thunberg, je pense que cette très jeune femme, jeune fille, qui proteste pour maintenir l'environnement, c'est une très belle figure, de femme qui a pris à bras le corps les problèmes de son temps et qui va dans le sens des problèmes de son temps. Je crois que c'est très important. Mais peut-être qu'elle fera pas ta dessous de sa vie. Elle peut pas, d'ailleurs. Mais à un moment donné, elle aura été là et elle aura dit des choses importantes. Je trouve que c'est une belle figure.
Merci.
People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you!
Le coup de gueule de Michel Perrault pour la planète, par la voix juvénile et si touchante de Greta Thunberg, la militante suédoise interpelle les politiques. Comment osez-vous, s'écrit-elle, en dénonçant l'inertie des gouvernements contre le changement climatique, une jeune femme déjà entrée dans l'histoire. Merci à Michel Perrault pour avoir partagé avec nous son chemin de femme à l'occasion de la publication de l'anthologie de ses œuvres intitulée « Le chemin des femmes ». C'est aux éditions Robert Laffont. La Marche du Monde est à retrouver en podcast. Pour vous abonner, il vous suffit de choisir une appli de podcast sur votre téléphone et de choisir votre émission « La Marche du Monde ». Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Écrivez-nous, réagissez. Cette émission réalisée par Sophie Janin, c'est la vôtre.